Donc nous démarrons notre matinée avec un apport du contenu sur le thème de la journée. Donc on a intitulé sur le programme « L'art, une ligne directe avec l'invisible ». Alors on l'a bien expérimenté pendant les derniers jours. Donc nous avons invité aujourd'hui Jérôme Cotin, qui est arrivé hier de Strasbourg, où il est professeur à la faculté de théologie protestante de l'université de Strasbourg. Jérôme Cotin est aussi professeur associé à l'Institut supérieur de théologie des arts au Theologicum de l'Institut catholique de Paris. Voilà, donc une carrière universitaire qu'il poursuit. Mais il est aussi pasteur. Et j'ai vu que vous aviez été pasteur à Saint-Étienne, donc Paul, tu l'apprends, hein. Paul Malard, près de Saint-Étienne, donc entre 84 et 90, avant d'obtenir votre doctorat en théologie de l'Université de Genève. Vous avez été aussi pasteur dans les Alpes, j'ai vu à Chamonix, dans la vallée de l'Arve, voilà. Votre champ de recherche est vaste, hein, mais nous vous avons invité parce que vous vous intéressez particulièrement à la théologie de la parole articulée au monde des images, à l'esthétique théologique et surtout à l'art contemporain dans ses relations avec le spirituel. Et nous avons, c'est sur ce thème-là, sur l'art contemporain, et vous préférez dire l'art d'aujourd'hui, que nous allons axer la matinée. Donc l'art des 10 dernières années, hein, c'est vraiment 10-15 dernières années. On a vraiment souhaité, lors de cette université, nous intéresser à ce fameux art contemporain qui parfois nous interroge pour parler en euphémisme. Et donc vous allez nous expliquer comment, dans cette société très sécularisée, comment les artistes d'aujourd'hui, qui ne sont pas toujours croyants, loin de là, on peut même dire qu'ils sont très très loin de la foi, en tout cas d'une foi structurée par une tradition, disons, comment est-ce que la spiritualité les inspire et également l'héritage du christianisme. Donc je vais vous laisser la parole jusqu'à 10h30, et puis ensuite nous aurons, je vous le dis tout de suite, hein, nous aurons une pause d'une bonne demi-heure, et c'est là que nous allons faire la photo de groupe traditionnelle, qui aura lieu juste devant à la sortie là de l'amphi entre le restaurant et ici. Donc ne tardez pas, on va se réunir autour de la statue de Jean-Baptiste de la Salle pour faire cette photo, et ensuite nous aurons un petit peu de temps pour prendre un café. Voilà. Pour reprendre ensuite à 11h avec Jean-Pierre Denis qui va nous parler pendant une demi-heure, dont je vous présenterai tout à l'heure. Et puis on aura un échange à ce moment-là avec Jérôme Cotin et Jean-Pierre Denis. Donc je laisse la parole à Jérôme Cotin. Merci beaucoup.
Voilà, merci Dominique de cette présentation. Je vais tout de suite introduire en quatre points ce que vous allez voir. Parce que donc le premier point, c'est que je privilégie la rencontre avec l'œuvre. J'ai aussi une formation d'historien d'art. Et je me méfie des discours trop abondants sur l'art. Je préfère que ce soit l'art qui parle, parce que c'est un langage. Donc mon exposé sera essentiellement visuel. Je vais vous mettre en condition de regarder d'abord, puis d'interpréter ensuite un certain nombre d'œuvres que j'ai sélectionnées. J'ajoute que la plupart des clichés, je les ai fait moi-même, je ne suis pas allé chercher ça sur Internet. Hein, c'est une rencontre, hein, c'est issu d'une rencontre, d'un face-à-face avec l'œuvre, ou selon différents paramètres. Deuxième précision, ça a déjà été dit, le champ est très restreint. Les plus anciennes œuvres que je vais vous montrer datent de 2002, on est en 2015, donc en gros 15 ans. 2002 à 2015, enfin on est en 2016, oui. Mais la dernière œuvre que je vous montrerai date de 2015. Et ce choix n'est pas un hasard. Je pense qu'il y a eu un changement de paramètres à partir, en gros, hein, des années 2000, et je vous en donnerai les preuves, où on peut dire que dans les milieux artistiques, le spirituel revient, et même revient en force, de manière tout à fait décomplexée. Voilà. Ce spirituel n'est pas forcément chrétien. Ça peut être un spirituel proche qui s'inspire de l'héritage du christianisme. Ça peut être un spirituel beaucoup plus large, ça peut être quelque chose qui est même anti-chrétien, d'où un effort d'interprétation. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est spirituel, il faut l'interpréter. Donc je crois qu'après avoir regardé une œuvre, il faut savoir l'interpréter selon un certain nombre de règles d'interprétation. J'essaierai de vous en proposer quelques-unes. Voilà, ça c'est le deuxième préliminaire. Troisième préliminaire, le concept d'œuvre d'art s'est évidemment ces dernières décennies beaucoup élargi. Et aujourd'hui, tout peut être objet d'une création artistique. Tout, y compris, et peut-être même surtout, le non-art, le banal, le rebut, l'insignifiant, le dérisoire. Mieux encore, l'éphémère. Donc l'art investit aussi la temporalité, l'éphémère, la trace. Ça sont des notions avec lesquelles les artistes jouent beaucoup, sans parler des matières, des matériaux. Tout objet, n'importe lequel, qu'il soit créé par l'homme ou pas, peut faire l'objet d'une mise en scène artistique. D'ailleurs, les artistes aujourd'hui préfèrent se faire appeler des plasticiens. On n'est plus artiste, on est plasticien. Enfin, on joue avec la plastique. L'art se rapproche de la vie elle-même, parfois s'en confond, et le corps humain, par exemple, devient des matériaux artistiques les plus privilégiés. Donc je vais essayer de montrer aussi cette diversité de l'expression artistique qui investit à la fois tous les lieux, tous les espaces, tous les objets, toutes les matières. Enfin, dernière précision, avant que nous rentrions un peu dans cette observation, interprétation, la question du choix. Qu'est-ce que je choisis de vous montrer et de ne pas vous montrer? Il faut que, en toute rigueur, que je vous rende compte des critères de mon choix. Et c'est là où j'ai le plus de problèmes, c'est que j'ai amassé un tel matériau que mon problème, c'est de sélectionner et de choisir ce que je ne vous montrerai pas. De retenir ce que je vous montrerai. Ah, c'est un peu frustrant pour moi, parce que je pourrais évidemment montrer beaucoup plus. Mais mon critère est triple. Le premier, c'est quand même la notoriété. Il y a quand même des grands acteurs de l'art, des personnalités incontournables. Et je pense qu'il faut les présenter, ne serait-ce que parce que tous les milieux de l'art se définissent par rapport à ces personnes, à ces personnalités. Ça, c'est le premier critère, la notoriété. Deuxième critère, c'est la relation personnelle que je peux avoir avec l'artiste, parce que je travaille avec un certain nombre d'artistes qui soit viennent vers moi, soit c'est moi qui viens vers eux, hein, mais donc, au fil des années, nous avons noué des relations, et évidemment, là, il se joue des choses assez, assez importantes, donc ça, ce sera le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est aussi dépasser nos frontières. Je trouve qu'on a souvent un mode de raisonnement, surtout chez nous, un peu trop franco-français. Hein, on vit dans un monde globalisé, et donc j'ai privilégié aujourd'hui la perspective européenne, c'est-à-dire qu'on vit en interaction avec des pays autour de nous, où il y a des grandes figures de l'art qui conjuguent de manière harmonieuse ou pas, vous verrez, art et spiritualité, et ça vaut la peine d'aller regarder un peu au-delà de nos frontières. C'est peut-être aussi une déformation du lieu d'où je me trouve, à Strasbourg, où la frontière, elle est chez nous. Voilà, donc parmi ceux dont je ne vous parlerai pas, je suis désolé, par exemple Pierre Soulages, des grands noms, Pierre Soulages ou Bill Viola, le vidéaste, ça je l'ai pas fait parce que chacun de ces acteurs nécessiterait un long détour d'une heure, voire de plusieurs heures, et je préfère ne pas en parler plutôt que d'expédier un peu un artiste, des artistes qui sont d'une grande profondeur, d'une grande complexité, où pour arriver au cœur de leur pensée, il faut quand même faire le détour par un certain nombre de paramètres. Et évidemment, vous voyez bien que là, le temps est quand même réduit. Voilà, ces précisions étant dites, nous allons maintenant entrer dans l'intelligence des œuvres, et on peut peut-être faire un petit peu de... baisser un peu la lumière. Le plan que je vous propose est le suivant. Je vais d'abord vous parler de quatre grandes expositions où il s'est passé quelque chose d'assez significatif en ce qui concerne cette rencontre entre art, art d'aujourd'hui et spiritualité. Vous voyez, ça, je pars de 2003, j'arrive à 2015-2016. Ensuite, j'ai sélectionné 7 artistes. Et enfin, je terminerai par 3 projets dans lesquels ces artistes ont rencontré un contexte religieux un peu plus institutionnel, qui ne sont pas ecclésiales. Je dis religieux, pas ecclésial, vous verrez la différence. Et ainsi, je pense qu'on aura pu un peu faire notre itinéraire. Alors, je commence par 4 grandes expositions. Nous sommes ici à la Biennale de Venise de 2003, et le pavillon tchèque et slovaque, donc ces deux petits pays, ce sont de l'ancienne sphère soviétique, sont mis ensemble, et ont présenté une œuvre sous la forme d'une, pourrait dire, d'une installation, presque une installation performance, qu'on appelle performance quand celui qui regarde l'œuvre se trouve à un certain moment impliqué dans le processus artistique en train de se dérouler. Donc nous entrons ici dans ce pavillon comme, vous voyez, dans le portique d'une manifestation qui va être en fait une manifestation sportive, puisque l'installation s'appelle Superstart, hein, Superstart, et nous sommes à l'intérieur de ce pavillon, et évidemment je ne peux pas rendre compte et du mouvement, du bruit, mais vous pouvez assez aisément vous reconstituer la scène. Des deux côtés, deux écrans géants avec des supporters d'équipes de football, c'est un peu dans la suite aussi de l'événement qui nous a sollicité ces dernières semaines, hein, qui crient d'une foule en furie pour, encourager leur héros sportif. Et au centre, nous avons un athlète, hein, qui est dans ses barres athlétiques, qui rate sa performance. Donc, une sorte d'anti-héros, un anti-sportif. Donc, vous voyez un peu le choc entre ces deux, la liesse de la foule qui veut des vrais héros, et celui-là qui est seul et qui rate. D'ailleurs, cette équipe, c'est un groupe d'artistes, s'appelle d'ailleurs Camera Scura, la chambre obscure. Vous savez que le principe de la Camera Scura est de proposer une image inversée du réel. Et donc, le groupe artistique a essayé de prendre cette métaphore et de proposer un regard inversé sur le monde qui nous entoure, les phénomènes sportifs, etc. C'est-à-dire, pour eux, valoriser celui qui rate, celui qui est seul, celui qui ne réussit pas sa performance. Et de fait, cet athlète, il a l'air de beaucoup souffrir, hein, dans ce choc entre la foule qui l'acclame et cet héros dans la solitude. Il ne vous échappera pas, hein, que cet athlète a une forme christique. Hein, il est dans les barres comme un crucifié. Donc il a peut-être, sans doute, on l'interprète en tout cas comme ça, en puisant dans notre réservoir intérieur d'images, hein, une tête christique. Ce qu'on ne sait pas, l'information supplémentaire que je vous donne, c'est que en fait, il a le vrai visage d'un héros sportif tchèque qui avait gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1936 à Munich. Donc c'est aussi une référence, hein, au nazisme, hein, où là, ces Jeux Olympiques, où finalement un certain nombre d'athlètes de pays considérés comme de race inférieure par le nazisme avaient réussi des performances sportives. Donc vous voyez, il y a aussi toute l'histoire un peu de ces pays envahis par les nazis, puis ensuite sous la coupe de l'Union soviétique, tout ça remonte, mais bien en amont de cela, il y a aussi cette image du Christ, hein, cette image du Christ comme l'anti-héros, hein, comme celui qui propose une autre logique, hein, une victoire qui réside dans la défaite, peut-être dans la défaite aux yeux des valeurs humaines, là réside la victoire de cet homme. C'est intéressant de savoir que cet homme, les artistes issus de pays soviétiques, donc ils n'ont pas a priori pas baigné dans une culture chrétienne, qui nous propose, vous voyez, de manière assez spontanée, une relecture, nous invite à redécouvrir ce Christ et l'intelligence de ce Christ de la foi par la médiation d'une installation artistique assez originale. Je crois que c'est assez significatif, en tout cas ce pavillon tchèque et slovaque a été assez remarqué par cela, un langage neuf, pour dire autrement, un ensemble de valeurs qui fondamentalement rejoignent le cœur même de quelques idées-forces de l'Évangile. Alors, autre exposition, la deuxième, elle est en 2008 au Centre Pompidou à Paris. Je ne présente que le visuel introductif de l'exposition, parce que ça nécessiterait évidemment un parcours beaucoup plus complet. Mais je crois qu'avec cette exposition, un verrou a sauté en France. C'est-à-dire que pour quand même la première fois, une grande institution publique, hein, financée par les deniers de l'État, a osé mettre en scène une exposition qui est de niveau vraiment international, mettant en scène le sacré. D'ailleurs, je connaissais bien Jean de Loisy, qui était commissaire de l'exposition, et il y a eu des longs et longs mois de négociations pour savoir quel terme retenir dans le titre, religieux, sacré, spirituel. Voilà, on tourne autour du pot, si vous voulez. Mais n'empêche, il y avait ici, à l'intérieur de ces œuvres, des références chrétiennes qui allaient au-delà aussi, mais évidemment le christianisme était assez bien représenté. Et là, je crois que un verrou sauté, c'est assez significatif du fait que maintenant, dans les milieux de l'art, le spirituel en général n'est plus tabou. Avec ce slogan de Bruce Nauman qui a été repris par cet artiste contemporain, le vrai artiste aide le monde en révélant des vérités mystiques. Je crois que c'est, un des artistes aujourd'hui se comprennent ainsi. Au même moment, toujours en 2008, on est à Karlsruhe, dans un centre très connu, centre d'art et de médias. Hein, donc c'est le dialogue entre les milieux artistiques et les milieux médiatiques. Une exposition qui montre ici cette espèce de cette installation assez étonnante d'un artiste russe, Alexander Kozolapov. Hein, voilà, c'est mon corps, c'est mon sang, hein, en faisant cohabiter deux signes contradictoires, au contraire, qui s'excluent, hein, ce visage iconique du Christ, hein, hérité d'une tradition de la représentation du visage du Christ, celle qu'on les voit dans les icônes orientales, et puis ces deux slogans, logo Coca-Cola et McDonald's. Et vous voyez que là, l'image peut s'interpréter de deux sens opposés. Et ça, c'est aussi cette cohabitation de deux lectures contradictoires. C'est un élément que vous allez retrouver dans un certain nombre de créations. C'est assez typique de l'art en post-modernité, c'est-à-dire l'art peut affirmer une chose et son contraire. Et finalement, ça va être au lecteur, à l'interprète, de décider du sens qu'il va donner à l'œuvre. Elle n'est pas proposée. Il y a une telle ouverture de signification que finalement c'est à nous de décider. Ici, ça peut être une œuvre qui décrète un peu la fin du christianisme, hein, cette communion, elle ne se fait plus aujourd'hui au corps et au sang du Christ, mais elle se fait au fast-food de ce qui nous est proposé par McDonald's et à la boisson Coca-Cola qui est devenue au fond un peu la boisson universelle d'une espèce de religion mondialisée de la consommation de masse. Ça, ce serait la première lecture. Mais il y a une autre lecture totalement inverse qui peut être proposée, c'est-à-dire la dénonciation de l'inanité des signes commerciaux, un peu comme ce que vous avez vu dans l'installation dans la Biennale de Venise, c'est-à-dire que, au fond, cette mise en scène mondiale, ce sont que des signes qui ne signifient plus grand-chose. On consomme, mais on ne communie plus. On est dans la consommation et pas dans la communion. Et donc, cette invitation à revenir à un vrai sens, un sens d'une communion spirituelle, hein, à des éléments de boissons, de nourriture qui sont plus que simplement pour nous nourrir. Et là, disons, la référence historique au visage du Christ, lequel évoque derrière lui toute une tradition et liturgique et biblique, évidemment, viendrait un peu dénoncer l'inanité ou la perte de référence historique de ces signes d'une consommation désormais mondialisée. Juste une image assez étonnante dans cette exposition qui mêlait les techniques médiatiques et un certain nombre d'œuvres artistiques, cette Bible qui s'écrit toute seule, ça s'appelle Robot Lab. Je me suis dit que là, les artistes deviennent des vrais ingénieurs, hein, qui sont capables de créer des robots ou cette écriture automatique qui écrit la Bible. La Bible s'écrit d'elle-même. Donc, vous voyez, on peut là aussi les artistes ont joué sur le choc entre différentes oppositions, l'absence de l'humain et la présence du divin signifiée par ce doigt, cet appareil, ce robot qui va évidemment suggérer le doigt de Dieu, l'écriture inspirée, le choc aussi entre une typographie très, très ancienne, très marquée historiquement, et puis cette technique très moderne, et puis la simplicité de l'encre et de la plume et la technicité du robot. Vous voyez, là aussi, ça peut être à la fois, je dirais, la technicité propose autre chose, mais il y a aussi un besoin de retour à des fondamentaux qui sont là écrits. Donc la Bible qui s'écrit toute seule à travers ce robot. Et je termine par la dernière de ces quatre expositions. Je voulais juste évoquer pour un peu dresser le paysage. On est ici, c'est récent, elle a terminé en janvier de cette année. C'est à Lille Métropole, donc le grand musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut. Et donc le commissaire de cette exposition, qui s'appelle Marc Donadieu, a imaginé tout un parcours, une exposition qui s'appelait « Là où commence le jour », « Là où commence le jour », avec une cohabitation d'œuvres contemporaines et de certaines œuvres plus anciennes, en particulier des gravures de la Renaissance, quelques œuvres d'incunables mais de Moyen-Âge, et selon une thématique en 12 points, qui était quand même plus ou moins inspiré des grands mythes de la civilisation occidentale et parmi eux évidemment de forme de récits bibliques. Et c'est d'ailleurs à la demande du commissaire d'exposition, M. Donadieu, que je suis venu voir l'exposition avec lui, puisque nous avons proposé ensemble un parcours de ses œuvres, lui disons expliquant la logique artistique de ses choix, que c'était impliqué très personnellement, et moi donnant les références plutôt historiques ou bibliques. C'est d'ailleurs très intéressant qu'aujourd'hui, des acteurs de l'art éprouvent le besoin de faire appel à des théologiens en disant, mais parce que c'est exactement ce qu'il m'a dit, je sais bien que je manie une symbolique religieuse, mais je ne peux pas aller jusqu'au bout de l'interprétation, donc un théologien me serait très utile. On a d'ailleurs fait tellement bonne équipe qu'il m'a... Il m'a resollicité une deuxième fois, ensuite j'ai été sollicité une troisième fois, et à la fin j'ai fini par lui dire, mais vous avez lu dans votre nom Donadieu quand même. C'est assez étrange quand même. Je vais me transformer en psychanalyste lacanien, mais enfin quand même, Donadieu, et ça l'a un peu ébranlé, je peux dire. Voilà, alors, tout ça pour vous mettre en condition. Alors, donc, nous visitons en avant-première l'exposition, avant de la revisiter une deuxième fois avec un groupe, et puis après il y a une table ronde, et mon regard s'arrête sur ce petit objet que vous avez ici sur la droite, presque insignifiant. Voilà, je ne sais pas si on peut ici, voilà. Il y a une espèce de flamme, et ce que vous ne verrez pas dans la diapositive suivante, pour ça que je vous en parle, c'est que il y a une espèce de flamme ici, ça bouge, évidemment qui est lié à un petit appareil qui se trouve tout en haut là, qui est un faisceau lumineux qu'on ne voit pas, mais qui fait que cette flamme bouge. Je m'approche de l'objet, voilà, Fabrice Samin, c'est un artiste belge qui travaille à Bruxelles, le titre de l'œuvre est « Ceci est », et... nous approchons de l'œuvre et Marc Donadieu me dit, voilà, l'artiste a utilisé une patène. Bon, effectivement, donc c'est pas un plat, c'est un plat destiné effectivement à recevoir l'hostie. Et je vois cet objet étrange qui bouge en haut et moi comme théologien je me dis, ça semble une flamme du feu, ça pourrait être le Saint-Esprit, ça pourrait être l'Esprit Saint. Et puis, à peine avais-je cette pensée, je me suis dit, mais ça c'est le théologien qui surinterprète tout le temps les œuvres, donc j'ai fait disparaître cette pensée, et à peine avais-je fini de cette pensée que Marc Donadieu m'a dit, pour l'artiste, c'est le Saint-Esprit. Imagine, c'est fantastique ça. Donc vous voyez comment, effectivement, l'artiste et le théologien se rencontrent parfaitement. Et vous savez que dans la prière eucharistique, c'est le Saint-Esprit, en tout cas en théologie protestante, mais je crois que c'est aussi une tradition qui remonte au Père de l'Église, c'est l'invocation du Saint-Esprit. avant tout qui est l'opérateur principal de cette transformation. Alors, évidemment, vous pouvez dire, mais oui, il n'y a pas d'aussi, mais justement, l'absence est une présence renforcée, vous voyez. Donc, on peut aller loin dans l'interprétation, disons, voilà, glisser d'un art tout à fait contemporain, 2008, minimaliste. Hein, parce qu'il n'y a presque rien, et la moitié de l'œuvre, on est dans l'immatériel, hein, parce que cette flamme-là, on peut pas la toucher, hein, et comment on peut assez facilement glisser de l'artistique au théologique, et évidemment, maintenant, le dernier élément, c'est que j'aille rencontrer cet artiste, c'est d'ailleurs dans mes projets à Bruxelles, pour que nous puissions nous échanger. Mais vous voyez, ça c'est une rencontre qui est tout à fait significative de ce qui se passe. En ce moment, dans un certain nombre de lieux et un certain nombre de personnes de l'art contemporain. Alors, je vais maintenant m'attacher, évidemment beaucoup plus rapidement que je le souhaiterais, mais ça va quand même vous donner un peu une idée, un parcours à travers différents lieux, pays, de ces sept personnages que j'ai retenus pour vous. Alors, d'abord, Orlan, qui est une personnalité assez complexe, qui fait du body art. Body art, c'est-à-dire qu'elle sculpte son corps, hein, voire elle le déforme, le met en scène, etc. Et là, il y a quelques années, donc une exposition à cette ancienne abbaye de Maubuisson à Saint-Point-l'Aumône, mais qui est aujourd'hui devenue un centre d'art contemporain financé par le Conseil général du Val d'Oise. Donc, les seules références religieuses, elles sont dans les bâtiments eux-mêmes. Hein, qui évidemment vont avoir une influence sur ce qui est présenté, mais c'est pas du tout le critère des acteurs de l'art. Et il se trouve que ce moment-là, Orlan a exposé donc un ensemble d'œuvres qui appelait tout ça union mixte, mariage libre et noces barbares. Donc vous voyez, les références aux religieux sont pas absolument évidentes, spécifiques dans le titre. Mais quand vous alliez de salle en salle, évidemment, donc vous aviez ici en haut à droite l'artiste elle-même qui fait des doubles d'elle-même. Hein, donc il y a toute une espèce de mise en fiction. Elle s'est d'ailleurs représentée en différentes saintes, des sortes d'églises en Marie, en différentes saintes. Parfois, elle a un rapport à la féminité, et même à la féminité mystique assez étonnante. Dans cette autre salle, vous avez des espèces de sculptures qui... Je pense qu'on pensait quand même à parfois des habits de ces sœurs qui vivaient dans ce couvent, qui était un couvent royal. Et puis, dans un autre lieu plus étroit, vous aviez cette croix formée de ces écrans de télévision dans lesquels des matchs de foot jouaient. Autre référence aux événements qui nous ont sollicité ces dernières semaines. Et donc on voyait ce mélange là c'est clairement une croix, et ces matchs de football avec ces ballons en dessous. Si on s'approchait de ces ballons dans la salle d'à côté, un était même présenté dans un écrin, un peu comme une relique, comme quelque chose observé. Et si vous approchiez de ce ballon, mais ensuite de tous les autres qui étaient au pied de la croix, on trouvait des extraits de Bible tempographiés, hein, mais incomplets. Hein, c'est-à-dire qu'on reconnaît des références ici, évidemment, à des versets de la Genèse, mais le texte n'est pas lisible en tant que tel. Alors, j'ai pas pu approfondir mon dialogue avec Orlan, mais ce mélange, c'est un peu comme ce qu'on a vu dans l'installation du pavillon tchèque et slovaque à Venise, c'est-à-dire pour elle, christianisme et sport et le football sont devenus les deux grandes religions mondiales, avec tous les excès possibles, mais peut-être aussi avec, un idéal de communion. Hein. Et elle joue sur le choc entre ces deux, le choc, mais ça peut être aussi une complémentarité, où là aussi, à nous de décider si le sport, le football a remplacé la nouvelle religion du XXIe siècle, hein, ou alors si, sous un autre registre, il se passe des phénomènes analogues, voire si le christianisme n'a pas des références, peut-être culturelles, historiques, supplémentaires, à rappeler. Hein. Le fait qu'elle a fait cette installation dans un lieu habité, quand même, hein, une ancienne abbaye, peut-être pas innocent. Voilà. Donc, tout est libre. tout est libre, mais vous voyez qu'ici, les références religieuses chrétiennes sont parfaitement assumées. Je passe à Wim Delvoye, qui est un artiste belge, et là, c'est un petit clin d'œil à la vie et à Isabelle Franck, qui, je crois qu'elle vous a accompagné les premiers jours, et c'est elle qui m'a fait découvrir, enfin, je connaissais déjà Wim Delvoye, mais elle a écrit, il y a quelques années, un magnifique article dans la vie, justement, sur cet artiste, qui a choqué, lors d'une exposition qu'il a faite à Paris, dans une galerie près du Louvre, et parce qu'il utilise ces Christs qu'il retourne sur eux-mêmes. Hein, il réalise des sortes d'anneaux de Möbius en bronze poli, à l'intérieur ou à l'extérieur de chacun, un Christ en croix semble emporté dans un mouvement de roue. Je cite Wim Delvoye, tel qu'il s'est exprimé à Isabelle Franck, « Je voudrais seulement observer et spéculer. Dans mon travail, je n'instrumentalise pas le Christ. Il est la religion de ma jeunesse. J'ai grandi entouré de crucifix. Le crucifix fait partie de ma culture, de mon patrimoine. Jésus m'intéresse, car il représente tous les autres siècles dans le monde de l'art et il a inspiré tant de chefs-d'œuvre. » Donc, vous voyez une reprise un peu culturelle hein, du Christ, du crucifié, évidemment autrement que comme on le voit et liturgiquement et visuellement au quotidien, si je puis dire. Mais c'est en même temps un appel à ses souvenirs de jeunesse et je crois qu'il faut, encore ces anneaux de Rochard, comme il l'appelle, hein, ces Christ entortillés sur eux-mêmes, qui évidemment surprennent, dérangent, mais qui peuvent être aussi, certains y ont vu, l'anneau de l'infini, puisqu'il s'est beaucoup inspiré de ce fameux nœud de Möbius, où, disons, c'est un nœud sans fin. J'ai d'ailleurs trouvé une église luthérienne en Autriche qui vient d'être construite en nœud de Möbius. Donc, vous voyez, c'est aussi une forme qui suscite, qui intéresse, qui questionne, en particulier aussi parce que le philosophe Jacques Derrida en a fait le symbole d'une forme de pensée postmoderne. Donc, vous voyez qu'il y a aussi parfois derrière des jeux qui peuvent sembler être assez gratuits, hein, il y a parfois derrière tout un appareil, une pensée philosophique, théologique ou mystique qui peut s'exprimer. En tout cas, ces artistes sont beaucoup moins ignorants des symboliques religieuses qui sembleraient. Ils lisent, enfin en tout cas ceux que je rencontre lisent très souvent les mystiques, la mystique chrétienne par exemple, et ont des références qui ne sont pas peut-être liées au dogme chrétien, mais ils sont pétris d'une littérature chrétienne qui évidemment a inspiré les arts pendant de longs siècles comme vous savez. Je quitte Wim Delvoye et j'arrive à mon autre artiste autrichien, celui-là, autrichien mais qui est très connu dans le monde germanique. Je me suis aperçu qu'il est peu connu en France, alors que c'est quand même un des personnes, pour vous dire, Arnulf Rainer, on lui a consacré, il a maintenant son musée à New York, donc c'est quand même un très grand. Curieusement, il est très peu connu, très peu exposé en France, peut-être parce qu'il a investi un peu trop la symbolique religieuse. Disons qu'il s'est fait connaître, c'est un artiste de l'avant-garde, il se définissait avec de l'avant-garde viennoise, hein, et donc il contestait toutes les institutions, y compris les institutions artistiques, religieuses, politiques de son pays. Il faut quand même savoir, bon, c'est maintenant un homme d'un certain âge, qui dépassait les 80 ans, mais toujours très actif, qui fait partie de cette génération en Allemagne, en Autriche, qui a demandé des comptes à la génération qui les ont précédés, mais qu'avez-vous fait qui a instauré le nazisme, hein, et même à l'Église, hein, qu'a fait l'Église pendant ces périodes sombres, et donc qui est passé par un moment de révolte. Et lui, une de ses manières de se révolter, c'était de repeindre, de surpeindre, hein, c'est pour ça qu'on appelle des surpeintures, en allemand Übermalen, Übermalung, Übermalungen, hein, il repeignait des motifs déjà peints. Alors, quand c'était les siens, ça allait, mais un jour, il a repeint, je crois, une vierge du Moyen-Âge dans un musée, il a fait 4 mois de prison pour ça, non. Il a expliqué que c'était une œuvre d'art, hein, c'était un geste artistique, évidemment, ça lui a coûté. Autre événement, il avait proposé un jour une de ses surpeintures pour une chapelle d'étudiants à Vienne, où c'est plutôt les étudiants qui sont allés chercher, enfin bref, et l'œuvre a été contestée parce qu'il y avait de la peinture qui dégoulinait sur la croix, alors etc. Il a dû retirer son œuvre. Elle est maintenant exposée à la Tate Moderne à Londres. Hein. Donc vous voyez, peut-être que les contestataires auraient mieux fait de s'informer un peu plus sur la pertinence du geste artistique de cet artiste. Il a rencontré sur son chemin quand même un interprète. Je crois qu'aujourd'hui, les acteurs de l'art sont très importants, sont des passeurs hein, entre l'artiste qui est dans son monde et la société. Il faut des acteurs de l'art. Et il a rencontré sur son chemin, lui, une personnalité tout à fait étonnante, Otto Mauer, hein, Otto Mauer, qui était un monseigneur, donc un prêtre catholique, monseigneur, passionné d'art contemporain. C'est lui qui a ouvert une galerie d'art contemporain à côté de la cathédrale Saint-Étienne à Vienne. Et il a surpris tout le monde parce que, évidemment, galerie d'art à côté de la cathédrale, tout le monde s'imaginait qu'il allait planter des icônes. Et le premier peintre qu'il a planté, c'est Rainer. Là aussi, scandale. Et c'est lui, ce Otto Mauer, qui a dit, mais attendez, c'est plein de spiritualité, cette peinture. Ce recouvrement, c'est aussi un dévoilement. Il a donné une espèce de clé de lecture, si vous voulez. Il recouvre, il surpeint, etc. Mais il laisse toujours des éléments ouverts, comme ici, dans ces deux têtes de Christ, christiques. Hein, vous voyez que même là, il y a un bout d'auréole qui apparaît. La structure même du tableau de gauche, elle est en cruciforme. À droite, vous avez ce Christ qui jaillit sans mettre un jugement. Et en fait, il rénove, il renouvelle une iconographie un peu usée. Il nous aide à voir autrement. Vous voyez ici que d'ailleurs, ces recouvrements se font souvent par forme de griffure. Hein. C'est un des premiers qui a laissé tomber tous les pinceaux et c'est son corps humain hein, qu'il accrochait un peu la toile comme un fauve. Hein. Il y avait quelque chose de presque de bestial dans ce geste artistique, mais qui laissait apparaître une espèce de vitalité nouvelle et qui nous peut-être nous aidait à revisiter complètement cet héritage chrétien. Il faut passer peut-être par ce moment de l'obscurcissement pour ensuite qu'un jaillissement, qu'un dévoilement apparaisse. Enfin, tout ça a été le travail de Otto Mauer et d'autres. Hein. Pour vous dire, Arnold Rainer est maintenant devenu presque trop religieux, en tout cas beaucoup plus qu'il ne l'attendait. En 2010, il y a eu à la Alte Pinakothek de Munich une grande exposition consacré à l'occasion des 80 ans du peintre, hein, Arnulf Rainer, Der Übermaler, le surpeintre. Le surpeintre. Pour vous dire, la fin de l'histoire, le dialogue n'a pas cessé à continuer, et à un certain moment, Rainer a été invité par l'université catholique de Münster en Westphalie à une grande exposition, et à l'occasion de cette exposition, il a même obtenu le titre de docteur honoris causa de la faculté de théologie catholique de Westphalie. C'est quand même étonnant. Voilà, nous avons un peintre docteur en théologie catholique, alors que il était une agressivité, et de toute façon, il a été très agressif vis-à-vis de tous les symboles religieux, mais vous voyez, derrière cette agressivité, il y avait peut-être un désir d'un nouveau langage de la foi, d'une nouvelle relation à Dieu, plus directe, qui passe par l'émotion et qui aussi coupe les ponts avec certaines ambiguïtés d'histoire. Alors, je joue juste quelques éléments, il faut que j'avance, de cette exposition à l'occasion des 80 ans de Arnulf Rainer à Munich, où vous voyez cette croix, on voit bien le mécanisme de l'obscurcissement-dévoilement. Il travaille sur des matériaux très simples, hein, c'est du bois, des planches de bois qu'il a sans doute récupérées dans des chantiers. Et quand on s'approchait, il faut s'approcher de ses œuvres. Hein. On voit qu'il y a différentes couches de bois, la peinture c'est du non fini, hein, et que tout est ici dans le bras gauche de la croix, dans ce petit signe de luminosité qui apparaît derrière l'obscurité, et que ce Christ amputé, hein, on ne voit pas de loin, hein, il est là au cœur même des deux branches de la croix. Hein, il y a quelque chose qui reste de sa corporealité, hein, une corporealité amputée, mais elle est là, et on ne la voit pas, on ne la voit que si on s'approche de très près. Donc vous voyez, il y a aussi toute cette nécessité de tourner autour d'une œuvre, s'approcher, s'en éloigner, etc., qui est chose qu'on ne peut pas faire quand on est juste face à un banal cliché. Voilà, et pour finir, il a même réinvesti la Bible, il a surpeint des gravures de Gustave Doré, hein, il y a toute une Bible de Rainer qui se trouve même traduite en français, hein. Et ici son exposition phare, Aus Löschung und Incarnation, hein, il est dit quelque chose du sens de l'incarnation dans cette peinture très, très physique, très incarnationnelle. J'abandonne avec regret Arnulf Rainer, mais je voulais que vous le connaissiez parce que il a fait énormément d'expositions sur ses croix recouvertes, ses croix de Jésus-Christ, à peu près dans tous les pays d'Europe, sauf en France. J'ai pu en Suisse, en Italie, en Allemagne, hein. Mais la France, les quelques expositions Rainer qu'il y a eu, on a eu une à Beaubourg, une à Nice il y a quelques années, c'était que sur des objets d'art, voilà, comme si le religieux avait été. Parfois, il y a des décisions en amont qui se passent, hein, dans les commanditaires, qui fait que on évite certaines problématiques. On pourra reprendre ça peut-être tout à l'heure dans la discussion. Alors Ernestinho Ernest. Alors, ça tombe bien parce que si vous tenez au courant de l'actualité artistique, actuellement il y a une grande rétrospective Pignot-Ernest à Nice, puisque c'est un artiste de Nice. D'ailleurs, on vous dit première rétrospective de Pignot-Ernest, c'est pas vrai. Il y en a une il y a quelques années à Évian. Je vais vous montrer quelques clichés, mais voilà notre artiste. Et lui, qui est assez étonnant pour différentes raisons. Le premier, c'est que il a une Je vais essayer de vous expliquer très rapidement son geste artistique. Il part de poses, il fait poser un certain nombre de personnages, comme ici. Ce sont des clichés que j'ai pris dans sa rétrospective au Palais Lumière réalisée en 2007. À l'occasion, c'était un parcours qu'il a proposé à l'occasion de Jean Genet, donc cet artiste homosexuel qui a eu lieu des agressions homophobes. Et donc, il fait représenter un peu un personnage qui prend comme par hasard, qui est censé être le Jean Genet, qui prend une pose christique. Une pose christique. Le commentaire disait « L'artiste resitue une symbolique entre crucifixion et aimantation des corps dans son dessin sacré profane de semelle. » Donc il prend la pose christique. Ensuite, l'artiste fait un dessin, hein, de cette pose qui a été filmée, photographiée, etc. Ça, donc il procède comme ça pour toutes les séries qu'il fait. Ensuite, il sérigraphie son dessin, donc ce dessin passe par l'affiche, se multiplie, et il va exposer ses dessins sérigraphiés dans des lieux du non-art. C'est un des premiers artistes, ce Pignot-Ernest, déjà dans les années 70-80, c'est un des premiers qui a imaginé l'art devait se trouver dans des lieux où on ne l'attend pas, donc des zones industrielles, périphériques, des grandes villes, des lieux du non-art, hein, dans la rue, etc. Donc ici, on est dans les docks de Brest. Mais c'est pas fini. Une fois que ces affiches sont placardées, un peu comme ça, eh bien, elles continuent à avoir une vie, c'est-à-dire qu'elles restent affichées, elles se déchirent, elles tombent en lambeaux, parfois on les agresse, ou alors elles se détériorent naturellement, et l'artiste revient. Chaque mois, il revient voir un peu dans quel état de dépérissement, de disparition se trouvent ces affiches artistiques, et ensuite elles disparaissent complètement. Donc, il dit, c'est un des artistes qui a théorisé le fait qu'il ne fait pas une œuvre pour l'éternité, il n'est plus dans ce fantasme de l'absolu, de l'infini, mais l'œuvre d'art, elle est comme le corps humain, comme l'être humain. L'œuvre d'art a une naissance, une vie et une mort. Et il l'accompagne jusqu'au bout. Et voilà. Et alors il revient. Et donc c'est une œuvre sur une œuvre. Hein, c'est une trace de ce qui reste. Hein. Vous voyez le commentaire du photographie prise à Brest le 8 février 2007, 6 mois après le collage de la sérigraphie. Alors cet artiste a fait énormément de séries. Et c'est un artiste militant. Il a pris fait et cause pour un certain nombre de causes humanitaires. Il a beaucoup lutté contre l'apartheid, il a contre le racisme, etc. Il investit aussi le religieux. Très souvent, d'ailleurs, vous l'avez vu, il l'investit de manière implicite par des causes qui sont christiques. D'ailleurs, lui-même le dit, il est influencé par les mythes. Ce qui l'intéresse, c'est les mythes qui ont circulé autour de la Méditerranée. Il a été d'ailleurs, c'est un artiste autodidacte qui a été un de ces chocs artistiques, fils d'une coiffeuse, hein, c'était quand il entrait dans la cathédrale de Nice. Donc il nous dit, je ne suis pas croyant, je ne suis pas croyant, mais les œuvres religieuses lui ont parlé. Donc très influencé aussi par l'art baroque, il a fait des parcours à Naples. Et ici nous sommes au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, l'ancienne chapelle du Carmel devenue temple de justice à la Révolution, qui maintenant fait partie intégrante du musée. Et en donc cette année-là, en 2011, Pignon-Ernest nous propose une série qui s'appelle « Extase » sur les mystiques féminines. Il a choisi cette femme mystique de la tradition chrétienne, qu'il a d'abord représenté toujours selon le même processus de dessin à la craie, et ensuite des sérigraphies. Alors là, nous avons les esquisses qui étaient dans ce musée d'art et d'histoire, et nous entrons dans cette chapelle, ce n'est plus une chapelle affectée, et on a ces sept mystiques qui se retrouvent ici, reproduites sur des plaques recourbées, posées sur une surface d'eau en forme de cercle. Je ne peux pas vous montrer, mais vous l'imaginez aisément, c'est que en même temps, il y avait des sonorités, il y avait des effets d'éclairage, c'est-à-dire que ces femmes mystiques étaient plus ou moins éclairées jusqu'à un moment où la lumière tombait complètement, et c'est qu'après qu'on réalisait qu'on voulait nous faire prendre conscience, nous mettre en situation, enfin les visiteurs, cette nuit mystique, hein, où c'est dans la nuit qu'on trouve la lumière. Du reste, le parcours, je vais vous montrer quelques-unes de ces femmes mystiques, donc c'est aussi très corporel, hein, ces femmes dénudées qui sont là dans différentes poses de prière et extatiques, pourrait-on dire, ou encore ici. Et quand vous quittiez l'exposition, eh bien, on vous donnait une feuille avec un certain nombre d'extraits de littérature de ces femmes qui avaient écrit sur leur expérience de Dieu. Donc, vous voyez, on pourrait presque dire, c'est à la fois un parcours artistique, mais on pourrait presque dire initiatique catéchétique. Hein, initiatique catéchétique. Donc, voilà, on peut le conjuguer à différents niveaux, mais voilà, on ne peut pas, on ne pouvait pas visiter, j'avais la chance d'être là à ce moment-là, visiter cette exposition, qui a d'ailleurs tourné hein, dans différents lieux en France, elle était aussi à Avignon, etc., sans percevoir quelque chose hein, de ce dialogue intime, intime de ces femmes avec Dieu, et dont la littérature chrétienne a évidemment conservé les traces dans les écrits de ces femmes mystiques. Voilà, il faudrait encore parler, si je voulais évoquer Pignon-Ernest, de sa fascination pour le Caravage. Hein. Il a beaucoup étudié le Caravage à Naples, il a fait des cycles Caravage à Naples. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui cite de manière explicite, parfois implicite, des références chrétiennes, mais on n'est pas simplement dans la simple citation, banale citation, il se donne tout entier dans ces phénomènes. Et bien que continuant à se dire non-croyant, athée, évidemment, il vit une expérience aussi spirituelle dans sa création artistique, et il nous la fait vivre, en tout cas, à ceux qui peuvent le suivre. Là, je vous ai juste mis une dernière offre, parce que c'est pour parler aussi de son côté militant. Hein, il a lutté contre les délocalisations, les expropriations, aujourd'hui... le refus de l'accueil des immigrés en faisant pareil ces affiches qui sont placardées un peu partout. Donc peut-être que votre regard sera un peu aiguisé, vous découvrirez des œuvres de Pignon-Ernest alors que vous ne les avez pas vues avant. Bien que maintenant c'est un peu le retour de circonstances, cet artiste qui avait toujours refusé d'exposer dans des galeries, dans des lieux d'art, évidemment, est maintenant le premier à qui on fait appel, puisque non, c'est la rançon de sa célébrité. Alors, je voudrais maintenant vous parler d'un autre, parce que jusqu'à présent, quand même, les artistes que je vous ai présentés sont des gens qui ont déjà une longue vie artistique derrière eux, des personnes qui ont un certain âge, et qui avaient, on l'a vu avec la citation de Wim Delvoye, eu une éducation religieuse, chrétienne, qui à un moment, un autre sort. Ce n'est pas le cas de ce jeune photographe, il est un tout jeune, hein, il a une trentaine d'années. Je me suis beaucoup intéressé à la photographie, C'est d'ailleurs l'objet de mon dernier livre, un livre collectif que j'ai fait avec quelques autres, qui s'appelle Le Christ réenvisagé. Je crois qu'il y a quelques exemplaires qui sont ici à la librairie, qui était le résultat d'un colloque que j'avais organisé à l'université de Strasbourg. Et cela, parce que j'ai été sollicité par la directrice des collections de la photographie contemporaine à la Bibliothèque nationale de France, rue Richelieu, qui, alors qu'elle exposait un artiste américain, je vous en parlerai pas, parce que sinon je pourrais vous parler de tout le monde, Joel Peter Witkin, ils avaient été très un peu ébranlés, parce que Witkin avait dit, moi ma condition, c'est américain, hein, ma condition pour que je vienne exposer, c'est je voudrais un théologien qui interprète mes œuvres. Alors ils avaient panique à Paris, un historien, un psychanalyste, non, un théologien. Alors j'ai paniqué, et comme c'était sa condition pour qu'il expose, finalement la demande m'est arrivée jusqu'à moi, et Madame Birolo, qui était à l'époque donc directrice des collections contemporaines, m'a dit, écoutez, acceptez, je vous supplie, acceptez, sinon il ne vient pas. Mais j'ai dit, mais c'est qui? C'est pas Witkin. Et puis après j'ai découvert que c'était un des plus grands photographes mondialement connus, donc je me suis dit, oulala, mais ma culture artistique a encore quelques lacunes, donc je me suis informé sur Witkin, puis alors, par là, sur le langage même de la photographie, et là, ce Thomas Devaux m'a été signalé donc par Madame Pirolo, lui dit, j'ai acheté deux clichés, deux ou trois de ce jeune photographe prometteur, et parmi ces clichés, il y a deux Pietà que je vais vous montrer, voilà, un peu étonnant, hein, deux Pietà. Voilà. Alors, je vais vous expliquer, mais rapidement, ce qu'il a voulu faire et comment il l'a fait. Parce que ça, c'est très intéressant. Hein. Le reste, j'ai d'ailleurs un témoignage, puisque ce sont des photos que j'ai exposées, je l'ai fait venir à Strasbourg, il a exposé, et donc il a même intervenu dans un colloque, dans une table ronde, et avec d'autres photographes. Ils ont chacun expliqué pourquoi la figure du Christ les intéresse. Voilà, pourquoi des photographes aujourd'hui sont fascinés par la figure du Christ. Alors, figure recomposée, hein, figure, etc. Et il y a quelque chose entre le corps christique et la matérialité même du médium photographique. Il y a quelque chose en commun qui a d'ailleurs été approfondi par Roland Barthes dans son livre sur la chambre claire, quand il parle du côté résurrectionnel d'une photographie. Dans l'esprit de Barthes, c'était le fait qu'une photographie garde des traces de l'absent. Voilà, c'était ça le côté résurgé. C'est quelqu'un qui a disparu, ce qui nous reste, c'est la photographie de cette personne. Et la personne photographiée, il reste quelque chose, même matériellement, dans les photons lumineux qui se sont inscrits sur la pellicule photographique, du temps où il y avait des pellicules encore, dans la matérialité même de la photographie. Alors, Thomas Devaux, ce qui est assez étonnant, il y a deux choses, puisque je l'ai rencontré, on a même fait une émission télé ensemble, c'est que, d'une part, il est issu de cette jeune génération d'artistes qui n'a plus aucune culture chrétienne. Voilà, contrairement, le christianisme, je sais pas ce que c'est. Donc, il réinvente le christianisme à sa manière. Hein. Alors, évidemment, comme photographe, comme artiste, il a vu des tableaux, mais ils sont vierges. Je vous en donnerai un deuxième exemple tout à l'heure. Donc, des artistes qui n'ont plus qu'une... Ils ne sont pas conditionnés. Alors, ça peut être évidemment un manque, mais ça peut être aussi un plus. Donc, ils réinventent un christianisme fait d'un mélange de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont vu, et de ce qu'ils croient ou de ce qu'ils croient croire. Enfin, voilà. Alors, cet artiste était photographe de mode. Hein. Il allait dans les défilés de mode, etc. Et à un moment, il a dit, je peux plus, c'est tellement cette inanité, cette superficialité, je veux travailler sur du vrai. Et il a choisi donc des sujets comme la Pietà, sujet classique. Alors, je vais vous lire juste quelques phrases qui sont tirées du témoignage dans lequel j'ai reproduit dans ce livre. Il a fait Pietà sont issus d'une série qu'il a appelée Attrition, et je lui donne la parole. Dans ma série Attrition, je m'intéresse au sacré et au profane, à l'humain qui balance selon moi toujours entre la grâce et la lourdeur. Mes modèles n'existent pas vraiment, ils sont composés de plusieurs corps où chaque corps est une foule. Je vais vous donner une explication dans un instant. Mes photographies sont le résultat de prises de vue liées à des reportages dans les vernissages d'art ou dans les backstage des grands défilés parisiens. J'utilise ensuite les clichés de ces événements pour construire mes œuvres. L'idée étant de transformer en forme sainte des personnages de la vie courante, je peux constituer à partir des personnes prises en photo à la fois la figure de la mort mais aussi la figure sacrée d'une sainte. J'aime la violence et la sénérité l'idée que chacun a tout en lui, je sanctifie mes sujets, les transforme en icônes que je brise de détails subtils, balayant d'un coup toutes les vanités. Vous voyez donc ce discours assez mystique. Alors, pour que vous compreniez bien, par exemple, ce prix, cette pièce-là, mais c'est la même chose l'autre, et c'est la photographie recomposée, si vous voulez, à l'aide évidemment maintenant des logiciels numériques, etc. Ce qu'il fait, il fait la démonstration, il va dans la rue, pas que dans les défilés de mode, à la sortie des supermarchés, etc. Il photographie les gens de dos, généralement de dos, pour ne pas avoir problème de droit d'auteur. Hein. Et ensuite, il va prendre de telle personne un bras, une mèche de cheveux, un bout d'oreille, un morceau de jambe, etc. Et il détache tout ça et il reconstruit de cette foule anonyme des personnages, comme par exemple Christ... ce Christ ici porté avec ce côté sfumato, etc. Donc il est constitué peut-être d'une dizaine, d'une vingtaine de bouts de photos de gens anonymes hein, qu'il a pris comme ça. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un peu le poids théologique et pas simplement artistique qu'on peut donner à ce type de représentation. Donc je veux dire, spontanément, sans aucune culture chrétienne, sans avoir jamais lu la Bible, hein, il reconstitue, par la magie de sa création artistique, quelque chose qui est comme au cœur de la pensée chrétienne, c'est-à-dire le Christ. Hein, on est tous le Christ. Hein, et il est l'un de nous, mais on est aussi le Christ, hein, communautairement, 1 Corinthiens 12, etc. Voilà donc un autre passage, je vous donne une autre lecture, et j'arrive à Castellucci. Vous voyez que je change aussi de médium artistique, hein, on est passé de la photographie aux performances, installations, à ici les arts du spectacle. Donc vous savez que ce spectacle de ce metteur en scène italien sul concetto di volto nel figlio di Dio a fait scandale dans plusieurs villes de France. Je suis allé moi voir le spectacle à Strasbourg, on était complètement fouillés, hein, poches, etc., tellement, un certain spectacle avait reçu des tomates, etc. Et alors, pourquoi? Parce que, évidemment, cette pièce avait été considérée comme provocatrice, hérétique, tout ce que vous voulez, et une des choses, c'est que vous aviez ce visage christique qui vous regardait pendant tout le spectacle, hein, fixement, comme ça, qui vous regardait, et évidemment il se passait des choses un peu étranges. Alors je vais pas tout raconter la scène, mais tout se passe entre un père débile, sénile, incontinent, et un fils qui essaye de sauver son père de la déchéance. Et évidemment vous voyez qu'il y a une espèce d'image inversée, hein, c'est le fils qui sauve le père et pas le père qui sauve le fils. Enfin vous voyez, donc il y a toute une relecture de l'événement christique. Et à un moment, ce fils qui n'en peut plus, hein, de soigner son père incontinent, il a, ça c'est un morceau très beau du spectacle, il se rapproche du visage de Jésus, il l'embrasse, hein, pour reprendre des forces. Donc alors il y a quelques gestes, quelques moments de violence dans le spectacle, mais ces moments de violence, hein, font partie d'un ensemble où, je veux dire, il y a une profondeur de vie qui a échappé malheureusement à beaucoup de critiques, soit par inculture religieuse, soit par inculture artistique, soit par des présupposés fondamentalistes, hein, à la fois théologiques et artistiques, sur ce que doit ou ne doit pas être un art qui investit les questions religieuses. Alors, d'où l'ambiguïté. Là, pourquoi je vous montre cette scène, c'est parce que à Strasbourg, grâce au Centre culturel Saint-Thomas des Dominicains, donc Castellucci lui-même a été invité, hein, pour quelques happy few dont je faisais partie, à venir s'expliquer et à venir dire qu'est-ce qu'il a voulu finalement montrer. Et vous avez ici donc Castellucci entouré de deux frères dominicains, dont celui qui l'a le plus défendu, le frère Hubert, qui l'a le plus défendu à Avignon, parce que c'est là qu'il était le plus violemment attaqué. Raconter que donc il y avait les opposants et les défenseurs, etc., et que lui arrivait avec en robe dominicaine, et que les défenseurs en disant « Ah, voilà qu'ils mettent aussi leur habit liturgique pour l'attaquer », alors qu'il était venu le défendre. Enfin, vous voyez, on était en pleine confusion. Et là, j'ai à peu près tout le script de ce que nous a dit Castellucci. Et finalement, il nous a donné aussi des clés de lecture très intéressantes en disant, voilà, pourquoi ce visage, je le cite, hein, les notes que j'ai prises quand je l'écoutais, j'ai feuilleté un livre, c'est un livre d'art sur Antonello de Messine, hein, qui a donné lieu à Salvator Mundi, un peu transformé, repris, mais un peu transformé, le geste de bénédiction a été enlevé, et je suis tombé sur ce portrait, j'ai eu l'impression que cet homme m'a regardé, je me suis senti regardé, et je me suis senti nu face à ce regard, j'étais dépassé, j'avais besoin d'une puissance plus grande que la force que j'ai en moi, et cette puissance je l'ai trouvée dans la contemplation de ce visage. Voilà, exactement ce qu'a dit, donc si, qu'est-ce qui est choquant là-dedans, vous voyez, hein, donc, et ça je vous donne une première clé d'interprétation quand on a une œuvre, peu importe qu'elle soit choquante, même surtout si elle l'est, qu'a voulu faire l'artiste, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quel est son témoignage? Voilà. Souvent, et alors évidemment, ça, c'est pas facile à trouver, parce que parfois, l'auteur se cache, ne dit pas ses clés. À nous de les trouver, c'est un peu un jeu. Mais, ici, on a des clés très importantes. Et, quand on lui a demandé si le visage était le Jésus ou pas, voilà ce qu'il a répondu, Castellucci. Probablement, il s'agit de Jésus. Tout le monde peut le reconnaître. Pour cette raison encore, plus il s'agit de Jésus, c'est-à-dire qu'il a enlevé la main qui bénit pour qu'on ait quand même un doute, et qu'on ait à se positionner chacun, disons individuellement face à ce visage. Et puis pour d'autres, il peut ne pas l'être, il peut simplement être une figure d'humanité. Donc vous voyez ça, je crois que c'est ces artistes qui travaillent dans le monde en postmodernité tel qu'on le connaît, utilisent aussi cette capacité, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'art de dire une chose et son contraire, et ça peut être simplement une figure d'humanité. Et d'ailleurs, le spectacle se terminait par un extrait du psaume 23, il est mon berger, il n'est pas mon berger, et chacun devait se positionner par rapport à ça, donc tout est ouvert. Voilà, l'art ne veut pas transmettre d'abord, elle n'est pas au service d'une conviction religieuse, elle est au service de ce qu'a voulu nous dire très personnellement l'artiste en fonction d'une expérience qu'il a faite, ensuite à nous de nous déterminer par rapport à ça. Donc vous voyez, tout est ouvert, tout est possible. En tout cas, on n'est pas du tout dans, le rejet ou tel que ça a été interprété par un certain nombre de personnes qui évidemment n'ont rien compris ni au langage de l'art contemporain, ni je crois aussi à la quête de la foi. Je termine ces sept parcours artistiques par un architecte cette fois-ci, suisse-allemand, qui s'appelle donc Zumthor, Peter Zumthor, qui a tout à fait de manière privée imaginé une chapelle, mais une chapelle non religieuse, puisqu'elle n'est pas n'a pas de fonction religieuse, mais il l'appelle chapelle quand même, à la mémoire du mystique suisse Nicolas de Flue, hein, qui est aussi une grande figure pour nos amis suisses, surtout en Suisse-Alémanie, parce que c'était un mystique qui a évité une guerre entre différents cantons, donc il y avait déjà aussi un discours, une action pacifique à une époque où, évidemment, on se faisait très facilement la guerre. Il a fait cette chapelle Bruder Klaus Kapelle, on l'appelle aussi la Fellkapelle ou la Zumthor Kapelle. Elle se trouve à Mechernich-Sparendorf, dans le massif de l'Eifel, au sud de Cologne et à l'ouest et à l'est de Bonn, dans des zones assez sauvages, montagneuses. Et je vais vous faire vivre un peu cette expérience. On doit aller à pied à cette chapelle, on n'y va pas en voiture, il faut marcher, en forme de centaines de mètres dans les champs. Et donc il a acheté un bout de champ privé pour lui, voilà, il y a une fondation qu'il a créée, un archer très cosu. Une architecture en quinconce, hein, qui se termine par une pointe, avec une porte en triangle qui pointe vers le haut, et quand on ouvre la porte, hein, le triangle peut soit désigner le ciel, évidemment, soit désigner une minuscule croix que vous voyez ici. Hein, voilà, on parle de la croix et le ciel, donc ouais, tout est symbolique d'une certaine. Voilà, l'idée c'est de nous faire vivre aussi une expérience mystique. On arrive dans un lieu, passe par un passage très sombre, on arrive dans un puits de lumière, comme ça, avec une ouverture qui est un ciel ouvert, donc il pleut, il peut pleuvoir. Voilà, cette lumière arrive directement du sommet. Quand notre œil s'habitue, on voit que l'ouverture a la forme d'une goutte d'eau. Hein, donc il y a tout un symbolisme de l'eau qui régénère, l'eau qui tombe, etc. Il y a comme des yeux qui sont là, qui forment des toiles qui sont tout la paroi faite d'un béton avec du gravier pris dans les torrents qui alentour, donc tous les matériaux sont pris sur place, etc. Enfin, je suis obligé d'aller très vite. Hein, et quand vous ressortez, vous avez un peu cet appel de la lumière hein, sous forme de ces filets qui vous renvoient un peu maintenant au vaste monde après vous ayez fait cette expérience d'intériorité, d'intimité, parce qu'on tient à trop au calme dans cette chapelle, pas plus, hein, c'est très resserré. Et vous avez fait un peu une expérience à la fois mystique et artistique. Hein, voilà. Un témoignage d'un très grand architecte. Et je vais maintenant terminer, je vois que le temps passe, mais je voulais terminer avec dernière partie de ce parcours sur trois types de créations, on va retrouver d'ailleurs Zumthor, qui ont eu lieu en contexte religieux, c'est-à-dire dans lequel un certain nombre d'acteurs ecclésiaux ont saisi la chance qu'il y avait à pouvoir, disons, utiliser ce langage performatif de l'art hein, pour arriver à ce langage qui soit autant artistique que spirituel. Et ça, c'est peut-être là aussi un signe des temps, mais on est en Suisse, peut-être un peu moins décomplexé par rapport aux religieux dans l'espace public. En 2002, la Suisse a organisé une exposition nationale, et autour du lac de Mora, Mürzensee, on est dans la frontière linguistique entre la Suisse romande et alémanique, il y a eu un parcours qui s'appelait « Sept lieux spirituels », un ange passe, « Sept lieux spirituels », où il y avait sept cabanons hein, autour du lac, et dans chaque cabanon, un artiste, était confié un artiste, avec un mot, un mot slogan, qui pouvait être un mot à la fois humain et biblique, et je vais vous en présenter deux de ces sept pavillons, le pavillon qui s'appelait « Au-delà », au-delà, Jenseits, en allemand, au-delà, investi par Anish Kapoor. Donc Anish Kapoor, il est connu depuis qu'il a exposé à la Moon Menta, je crois que c'est cette année ou l'année dernière, à Paris, un artiste d'origine indienne qui est anglais, hein, qui travaille sur des grandes formes convexes, concaves, etc. Et donc lui, on lui avait confié ce pavillon au-delà. Et qu'est-ce qu'il en a fait ? Vous voyez la foule, c'est amusant, parce que la foule fait la queue pour rentrer dans au-delà. Donc, vous voyez, on peut interpréter ça dans un autre sens. Donc, voilà, la foule entre. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pavillon ? Anish Kapoor nous propose un miroir circulaire convexe de 3 mètres de circonférence. Hein, et on voyait son image déformée se refléter dans le miroir. Et tout ça était mis en relation avec le verset d'un Corinthiens 13-12. À présent, nous voyons dans un miroir de façon confuse, mais alors ce sera face à face. Donc vous voyez un peu, cette intuition, ce sont les paroles eschatologiques de Paul, hein, qui envisage un peu ce temps d'après les temps, ce temps futur, hein, est mis en scène plastiquement, hein, on devient, c'est mieux que simplement écouter les paroles de Paul, c'est revivre quelque chose du choc qu'il a eu, ou de la vision intérieure qu'il a eu quand il a imaginé hein, ces passages relatifs à la résurrection des corps, hein, tout ça mis en scène par un artiste d'origine hindou-indienne. C'est quand même fantastique. Voilà l'expérience qu'on peut faire. Deuxième expérience du pavillon, un de ces sept pavillons, le pavillon Segen, ça c'était en allemand, bénédiction, où vous entriez avec des mains, des moulages de mains, alors il y avait la main d'un artiste, la main d'un enfant, la main d'un pasteur, etc., qui dépassait du sol, dans lequel tombaient des gouttes d'eau, et tout ça sur fond d'un ciel ouvert, donc c'est-à-dire qu'il y avait aussi la pluie là aussi qui arrivait quand elle était là, et évidemment ces mains attendaient une réponse, et là le photographe, ce ne sont pas mes photos, là, c'est une photo d'un ami qui s'appelle Didier Jourdan, qui a d'ailleurs participé au catalogue d'exposition de ces sept lieux spirituels, et évidemment, le geste évident était de prendre la main. Donc vous voyez, vous aviez deux mains qui se prenaient, la main artistique devient une main qui bénit. Vous voyez, on change de l'action même du spectateur qui prend cette main, fait qu'on glisse insensiblement de l'artistique au liturgique. Ça redonne sens au geste de bénédiction et par derrière peut-être aussi au geste du baptême. Très vite, hein, parce qu'il me reste plus beaucoup de temps, je ne vais pas dépasser, hein, mais j'ai encore 10 minutes, mais ça sera parfait. Deuxième projet artistique dans lequel des acteurs étaient obligés. J'ai oublié de dire qu'en 2002, en Suisse romande, c'était un projet œcuménique, mais quand même essentiellement porté par les églises protestantes de Suisse, des deux aires linguistiques. Hein. Voilà. Et ici, c'est un projet de l'archidiocèse de Cologne, en 2007, vous voyez, donc c'est aussi assez récent, qui a construit sur les ruines de l'ancienne église gothique Columba, détruite pendant la guerre et restée à l'état de ruine jusqu'à il y a effectivement cette date-là, construite, une architecture parfaite, moderne, contemporaine, du même Zumthor dont vous avez vu la chapelle du frère Jacques, là, du frère mystique, Nicolas, et pour rassembler à l'intérieur, donc déjà l'œuvre, disons, architecturale est déjà en soi quelque chose de très signifiant, puisqu'il est resté aussi, il y a ce dialogue entre le contemporain et ce qui reste du passé, mais à l'intérieur du musée, tout est fait pour que dialogue ensemble, il y a des œuvres héritées du patrimoine artistique de l'archidiocèse de Cologne qui est immense, donc c'est d'œuvres contemporaines, anciennes, médiévales, très connues, mais qui rentrent en dialogue ou en opposition avec des œuvres très contemporaines. Et parmi elles, un dont je ne vous parlerai pas, parce que d'abord il est en deçà de la frontière que je m'étais fixée, 2000, mais qui a joué un rôle très important à Cologne, c'est Beuys. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de Joseph Beuys, un artiste performateur, très provocateur, aussi l'équivalent de Rainer, mais en Allemagne cette fois-ci, dans les années 60-70-80, mais qui lui aussi a rencontré un homme d'église qui a été fasciné par son geste, qui est le jésuite Menekes, Friedhelm Menekes, qui a entamé un dialogue avec... Tout ça, on ne connaît pas en France, hein, parce qu'on n'a aucune trace traduite en français de ce dialogue entre Menekes, le jésuite, et Beuys, qui pourtant attaquait le christianisme lui aussi, et par ailleurs se disait une réincarnation du Christ. Donc il y avait quelque chose de très, même très outrancier dans son geste, mais Menekes avait perçu qu'il y avait, même dans l'outrance même, dans la démesure, il y avait quelque chose de vrai qui se disait de vrai à la fois artistiquement et spirituellement. Donc dans ce musée Columba, vous avez tout un les manuscrits des différents dialogues entre ces deux monstres de l'art contemporain et un interprète. J'insiste aussi sur le rôle des interprètes. Je veux dire, aujourd'hui, l'art de besoin entre l'artiste qui est dans son monde et la société contemporaine, on a besoin de passeurs, en fait, d'interprètes au niveau artistique, au niveau religieux, hein, qui fassent le lien entre les uns et les autres. Ce qui a été aussi le rôle du père couturier, par exemple, dans les années 1950. Alors, on a des tas de choses qui sont liées dans ce musée Columba à Beuys, mais on a aussi une œuvre, je voudrais attirer votre attention là-dessus. Donc, vous voyez ici, protégé un petit retable miniature, et puis derrière on est étonné de cette redingote qui se trouve accrochée avec ce chapeau à un perroquet sur un fond doré, mais c'est ça l'œuvre. Et je vous propose de la regarder d'un peu plus près parce qu'elle est très intéressante. Voilà l'œuvre. Donc le perroquet, c'est pas quelqu'un qui a oublié son manteau, hein, c'est pas, etc., il est là, et l'œuvre est constituée de trois éléments. Il y a ce qu'on voit là, les traces d'une présence, les traces d'une présence masculine. Il y a ce fond doré constitué par des centaines de petits carrés lumineux. Voilà. Et puis tout à gauche, je ne sais pas si vous voyez, une petite lampe à huile. Elle fait partie de l'œuvre d'art aussi. Donc l'œuvre d'art, c'est l'ensemble de la surface. Alors si vous n'êtes pas attentif, vous passez à côté, vous ne voyez rien. Mais donc c'est lié à Yanis, c'est une œuvre de Yanis Kounelis, un des acteurs de l'art Kounelis d'origine grecque, hein, de l'arte povera, l'art pauvre. Et vous voyez donc ici cette petite lampe, et ici ces carrés qui font presque une mosaïque. Alors quand je vous dis que Kounelis est d'origine grecque, hein, les mosaïques de les fonds dorés, tout ça, c'est son imaginaire, et il a reconstitué quelque chose, que, en tout cas, je ne sais pas si c'est lui qui l'a interprété ou ceux qui ont mis en scène l'œuvre ou moi, j'en sais rien, mais pour moi, j'y vois l'image d'une espèce de trinité, hein, où on a cette, on pourrait presque dire, je vais revenir à la, voilà, le fond, ce fond doré qui serait le Dieu invisible, hein, le Dieu, voilà, de la présence absence. La redingote, c'est quand même une trace d'humanité, et si vous voyez, cette redingote, elle se reflète sur le fond doré, et on croit discerner une ombre, disons, d'une silhouette humaine. Donc ça pourrait être aussi un peu signe d'incarnation, quelque part, et évidemment la petite lampe sur le côté, pour moi c'est l'esprit. Donc il y aurait quelque chose de trinitaire dans cette œuvre, hein, qui s'explique, qui pourrait tout à fait être et ne pas être, c'est ma lecture, mais elle a sa cohérence, alors j'ai pas poussé l'enquête jusqu'à savoir qu'a voulu faire Kounelis, mais à la limite à un certain moment c'est égal, puisque je sais que le principe herméneutique, c'est-à-dire le principe d'interprétation de ces œuvres contemporaines dans ce musée, c'est évidemment de les mettre en opposition, mais aussi en dialogue avec les œuvres du patrimoine chrétien. C'est-à-dire que, je veux dire, il y avait la spiritualité de l'art médiéval, mais il y a aussi une spiritualité autre de l'art contemporain qui joue beaucoup plus sur l'absence, sur l'énigme, sur le double sens, sur le conflit des interprétations, etc., etc., mais c'est une spiritualité tout à fait incarnée et présente. Et peut-être même qui nous parle plus ou un certain nombre de contemporains que des œuvres qui sont si très datées par rapport à l'histoire. Et je termine, ça va être la dernière contexte d'exposition, une artiste que je connais personnellement très bien, qui a fait cette installation au musée du Hiéron à Paray-le-Monial. Bon, Paray-le-Monial au lieu religieux, mais le musée municipal, hein. Attention, donc c'est un musée municipal. La conservatrice Dominique Dandrel, que je connais bien, donc est quelqu'un qui était formé aux arts décoratifs, aux beaux-arts à Lille, qui n'est d'ailleurs elle-même pas du tout chrétienne, mais qui a perçu, qui étant responsable de ce musée qui expose des objets d'art religieux du passé, veut chaque année présenter une œuvre contemporaine, hein, qui là aussi rendre dialogue, rendre vie, ou montre aussi d'autres voies, spécialité que simplement la seule voie du repli par l'histoire. Et elle a exposé en 2011 cette chose extraordinaire d'une artiste, Valérie Colombel, qui s'appelle Résurrection, une mosaïque en suspension. Hein, c'est un espèce de cube dans lequel se trouve un peu emprisonné, mais aussi protégé, un corps humain en train de... puisque le titre s'appelle Résurrection. Et tout ça, c'est fait de milliers de petites tesselles, unies les unes aux autres par des fils invisibles. Je crois qu'il y a 4005 fils invisibles qui réunissent, qui fait qu'elle met 10 jours hein, pour installer son œuvre. 10 jours pour le monter, elle monte. Et voilà, vous arrivez à cette espèce d'apparition, hein, quand vous essayez de vous faire rendre compte de ce choc, où on croit être dans la matérialité et l'immatérialité en même temps. Cette figure, elle est androgyne, hein, elle a des rondeurs un peu féminines, mais en même temps, on voit pas tellement de seins, donc ça peut être homme ou femme, d'ailleurs l'artiste me l'a dit, mais elle me dit, c'est d'abord ma résurrection. Et là, c'est là où le dialogue avec l'artiste m'a aidé aussi à approfondir le sens de l'œuvre. Sens premier, ensuite, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la réinterpréter autrement. Mais elle a dit, là aussi, l'artiste m'a dit, je ne suis pas croyante, mais je ne suis pas croyante. Elle m'a dit, je ne connais rien du christianisme. C'est aussi une jeune artiste. Elle me dit, j'ai été élevée dans une famille où on n'a jamais prononcé le mot de Jésus. On n'a jamais, c'était hors de notre horizon culturel. Aucune référence à l'école, aucune référence dans le milieu artistique de son travail. Et donc, spontanément, elle dit, mais cette résurrection, c'est d'abord la mienne. C'est ma résurrection, j'ai vécu une période de dépression, j'en suis sorti, etc. J'ai vécu une sorte de retour à la vie, passage de la mort à la vie, et c'est ma résurrection. Alors j'ai dit, oui, mais attendez, pourquoi résurrection, vous auriez pu dire ma renaissance, le mot résurrection est très chargé, et puis pourquoi ces bras en croix? Elle m'a dit, mais peut-être qu'effectivement, derrière ma résurrection, il y a autre chose. Mais voilà, point d'interrogation. Et je lui dis, mais écoute, vous savez, ce que vous me dites, ça me fait penser à certaines phrases de Paul, etc., quand il dit « Christ est en moi », etc. On s'est retrouvé quasiment à dire la Bible ensemble. Il dit, mais dites-moi les passages, etc., c'est où? C'est intéressant ce Paul, là. enfin, voilà, c'est pour vous dire, une nouvelle génération, un peu comme Thomas Devaux, de ces jeunes artistes qui sont tout vierges, n'ont aucune notion, et puis parfois retrouvent spontanément... vont au cœur même de ce qui nous est cher. Et ils disent peut-être bien mieux que n'importe quelle prédication, n'importe quelle... ce qu'est, au fond, cette réalité irréelle de ce corps qui renaît à la vie, qui est au cœur même de la foi chrétienne. Et donc on n'est pas sûr que ce ne soit pas une illusion, hein, mais en même temps il y a une matérialité, il y a bien une matérialité ici, mais c'est une matérialité qui nous échappe. C'est-à-dire que si vous passez le bras à travers cette sculpture en mosaïque, je l'ai fait d'ailleurs, il apparaît de l'autre côté. Donc voilà, cette, voyez ici avec quelques personnages, voilà l'artiste, vous la voyez ici en train d'expliquer ce qu'elle a voulu faire. Et évidemment tout ça, ça rentre aussi en relation, signification avec ces Christ anciens qui apparaissent derrière. Voilà. J'arrête là parce que le temps est fini. Elle a terminé par cette échelle de Jacob qui monte vers le ciel, qui était aussi une mosaïque en suspension. Je vous remercie.